Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, premier sujet ce matin, le Québec bashing qui est devenu un des sujets dominants de cette fin de campagne électorale. La grande question, est-ce que le Québec est attaqué comme le dit François Legault, ce qu'il a dit vendredi là pour s'attaquer, évidemment, après le débat des chefs en anglais. Luc?
Ben, ça, les mots sont trop forts. C'est pas parce qu'il y a une yuppie qui étale son ignorance sur... une yuppie unilingue anglophone de Toronto qui étale son ignorance sur le Québec que la nation est attaquée, on est plus fort que ça. Je vais revenir sur ce qu'elle a dit, mais je voudrais revenir parler un peu de M. Legault avant. Là, M. Legault, faire attention là au parallèle qui commence à se multiplier avec l'Union nationale. T'sais. C'est que l'affaire, c'est que quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas réussi à faire la transition. Parce que, tu sais, ils se mettaient la main renversée sur la tête, faisaient un signe de poignard perçant leur cœur, se mettaient à genoux pour déclarer leur amour. Ils en mettaient trop. Ils en mettaient trop parce qu'il n'y avait pas de parole. Alors, quand les paroles sont arrivées, t'es pas obligé d'en mettre autant. Mais c'est pareil. Quand tu passes de l'opposition au pouvoir, dis-toi bien que la caméra est juste sur toi. Quand t'es dans l'opposition, il faut que tu fasses des sparages, que t'en appelles à la nation à tout bout de champ. Puis finalement, il y a deux journalistes qui se pointent. Mais là, t'en as 16 devant toi qui sont là pour savoir ce que tu penses de la pluie qui s'en vient après-midi. Fait que fais attention dans l'hyperbole. Ça donne une mauvaise image. Et moi, je pense que M. Legault ne maîtrise pas ça encore. Parce que c'est tout le temps des drames incroyables. Maintenant, revenons sur le Québec bashing. Le Québec bashing, là, c'est pas commencé hier. Hein? Puis le refus de la volonté du Québec de défendre sa légitimité d'être comme une nation francophone et d'expliquer, pas de prétendre, d'expliquer la possibilité de sa disparition. Possibilité de cette disparition qui est arrivée plusieurs fois dans l'histoire. Plusieurs fois, on a failli disparaître. Mais ça passe pas dans le Canada anglais. Ça ne passera pas. Ça passait pas en 1840, ça passait pas en 1867, ça passait pas en 1971, ça passe pas jamais. Et ça passera jamais. Aujourd'hui, ça prend les accents de la cancel culture, la culture de l'annulation, puis on est des racistes. Ah, OK, c'est correct, dites ce que vous voulez. Mais rendez-vous compte d'une chose, vous faites de la projection. C'est du racisme que vous faites. C'est du racisme parce que c'est de l'inconscience, parce que c'est du refus de comprendre la difficulté de faire vivre une nation francophone dans un continent nord-américain.
La sortie de François Legault vendredi est une opération de récupération politique. Tu parlais d'hyperbole, Luc. Il y a des électeurs, des citoyens au Québec qui sont d'accord avec François Legault. Enfin, un premier ministre qui est transparent, qui se tient debout, et d'autres qui sont choqués, qui ont été choqués par sa sortie du jeudi, celle où il donnait là l'absolution inconditionnelle à Erin O'Toole et son approche, et d'autres qui ont été choqués, interprétant la sortie de François Legault comme une invitation à voter pour les conservateurs. Dans un cas comme dans l'autre, François Legault, jeudi, était sur la défensive. Le débat en anglais lui a donné l'opportunité de se repositionner sur le plan politique. Alors, et plutôt que d'être justement sur la défensive, de s'excuser ou de remettre de la pâte à dents dans le tube, il a décidé de jouer offensif. Et là, c'est là qu'il a fait cette affirmation que le Québec, la nation québécoise est attaquée. Cette modératrice que tu as qualifié, Luc, selon moi, n'a pas attaqué le Québec. Elle a porté un jugement de valeur choquant, mais la question qu'elle a posée reflète ce que pense une majorité de Canadiens à l'extérieur du Québec. Et ce que ça démontre, une fois de plus, c'est les deux solitudes dont on a si souvent parlé au Canada, le Québec et le reste du Canada. Alors, François Legault, effectivement, aurait intérêt à se laisser guider non pas par ses convictions personnelles, mais par cette notion, cet impératif, devrais-je dire, qui a guidé tous les premiers ministres au Québec depuis 229 ans de parlementarisme, c'est-à-dire le fait de défendre les intérêts supérieurs de la nation québécoise. Tous les premiers ministres qui se sont succédés ont défendu les intérêts du Québec. Ils l'ont fait à des intensités différentes, à des moments différents, pour des motifs différents. Prenez l'exemple de René Lévesque. Hein? René Lévesque qui a fait front commun avec Brian Mulroney en 1984, inspiré par le fédéralisme renouvelé que lui proposait M. Mulroney. Il a fait confiance à Brian Mulroney, ça a donné ce que ça a donné. Mais au-delà de ça, t'as raison. Mais peut-être. Mais René Lévesque a mis ses convictions personnelles de côté. Hein? S'il y en a un qui incarne la nation québécoise, l'idée du pays, c'est bien lui, pour défendre les intérêts supérieurs du Québec. C'est de notoriété publique que M. Legault n'est pas très amoureux de Justin Trudeau. Hein? Puis ça, j'utilise là, presque des gants blancs pour vous dire. Oui, c'est ça, c'est un euphémisme, parce que c'est vraiment pas l'amour fou. Mais il y en a eu d'autres des premiers ministres dont qui n'étaient pas qui n'avaient pas une relation très chaleureuse. Je pense entre autres à Jean Charest et Stephen Harper.
Oui, mais
ça a pas... Ça n'a pas empêché les deux de travailler pour les intérêts supérieurs de la nation.
Mais Nathalie, tu ne penses pas qu'il a scoré dans son but énormément? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'une partie du vote qui devait aller aux conservateurs va aller au Bloc. Et là, c'est certain que... On l'a vu d'ailleurs, les sondages hier. Là, donc, les conservateurs qui étaient en avance, qui étaient nés à nez, sont tombés 3 points en arrière parce qu'il y a monté du PPC, d'une part, mais aussi parce que, sans doute, le Bloc va chercher une partie des votes. On va le savoir plus la semaine prochaine.
Mais
donc,
si quand
il a scoré dans son but.
Tu te fais traiter de raciste. Ce que je veux dire, c'est que le Québec bash. Là, c'est très large. Mais quand tu te... Puis là, tu as le droit de ne pas aimer la loi sur les signes religieux, puis tu as le droit de contester un paquet de lois au Québec. Mais moi, c'est ça, cet amalgame, vous avez fait ça, donc vous êtes raciste. Alors que les messages haineux, le racisme dans le reste du pays
ben oui.
est encore plus solidement ancré. Mais c'est pour ça, moi, je comprends Legault un peu de dire, là, ça va faire. Là.
Oui.
Et même Trudeau est sorti cette vendredi.
Ouais, Nathalie.
Mais non, j'avais pour dire, Paul, je comprends tout ça, mais en même temps, il y a beaucoup de politique. Là.
Ben oui.
C'était un cadeau ce qui arrivait sur un plateau d'argent et pour Yves-François Blanchet et pour François Legault. Mais la soupe commence à être pas mal mélangée. On est en face d'une minestrone, puis on ne sait pas trop dans quel... On va prendre une bouchée, mais on ne sait pas trop ce que ça va goûter,
va croquer.
En fait. mais c'est vrai, tu as raison, parce que...
Mais la base, en tout cas, c'est quand même, si on ne peut pas le mettre de côté, là, c'est du croque québécois. Là. Si on va croquer dans la minestrone, il y a du croque québécois en masse. Parce que... c'est pas un cas unique. Il y a 4 greluches qui se sont prononcées à CTV, à une émission qui s'appelle The Social, il y a quelques mois. C'était affreux. Il nous traitait de tribus. Mais c'était une journaliste proéminente de Toronto.
Mais
après, à tous les mois, il y en a une affaire comme ça. Et ce que ça démontre, c'est que il y a un refus de cette idée-là de nation. Alors, Legault monte au front en disant, maintenant, on est une nation. Mais attends une minute, regarde. Des arguments, là, anti-québécois, mais pas juste anti-québécois, là, restez dans votre trou parce que vous êtes une gang de coquerelles. J'en ai-tu entendu, moi, dans ma vie? Par exemple, l'argument de l'assimilation sur la base du fait que, de toute manière, notre culture vaut pas la peine d'être défendue. Combien de fois j'ai entendu dire, des gens qui me disaient, ah oui, toi, Luc, t'as fait tes études à Paris, on te comprend quand tu parles français. Mais le reste des Québécois, on n'a pas intérêt à écouter leur langue.
Oui, mais quand
moi, j'ai entendu des anglophones Toronto, du haut de la classe de Toronto, des gens qui se pensent comme des humanistes me dire ça. J'ai entendu des gens aussi me dire à Toronto, oui, mais attends, il y a eu une défaite militaire. Comprenez-vous qu'il y a une défaite militaire? C'est normal que vous disparaissiez. Ben oui, comme l'Italie puis l'Allemagne, peut-être.
Ouais, non, mais Luc,
t'entends
écoute,
tous ces arguments-là, t'entends ça?
Ouais.
Nathalie.
Oui, je sais, mais c'est pas nouveau. Deuxièmement, je veux revenir au fond 3 secondes d'écart. Vous irez lire Philippe Giffournier dans l'actualité. Philippe Giffournier, là, c'est l'homme qui a conçu Québec 125. Il se demande comment se fait-il que François Legault vante l'approche O'Toole alors qu'on est face à une formation politique qui veut mettre à la poubelle le chèque de 6 milliards promis par les libéraux de Justin Trudeau pour les garderies. Et vous irez lire la page Charme 48 du programme du Parti conservateur. Ils veulent modifier la péréquation pour rééquilibrer les choses, sachant que l'Alberta a déjà beaucoup trop contribué par le passé. Alors, ce qu'il est en train de dire Aaron O'Toole, c'est qu'on va modifier la péréquation qui va causer un préjudice au Québec. Il se pourrait très bien qu'avec un gouvernement minoritaire ou majoritaire conservateur, là c'est plus minoritaire, c'est vers ça qu'on s'en va, que le Québec soit confronté à une diminution de sa péréquation. Et on ajoute à ça comme 3e argument, François Legault souligne les vertus de l'approche O'Toole alors que le Parti conservateur est en 3e position dans les sondages. Alors, Il n'y a pas de rationnel derrière la position de François Legault, si ce n'est que la colère qu'il nourrit à l'endroit de Justin Trudeau. Fait que ça, ça ne peut pas guider le premier ministre.
C'est un choc des valeurs,
tu ne
penses pas? C'est-à-dire que tu as un côté, tu as un multiculturaliste qui...
Oui, tu as raison.
Qui n'écarte pas l'idée de venir se mêler de la contestation, pardon, de la loi sur la laïcité. Oui. T'as quelqu'un qui a une vision qui dit « je vais te donner de l'argent, mais va mettre tellement de conditions que t'auras pas le choix ». Je comprends le PM de dire « t'as peu, là, mets toutes tes affaires, là, non ».
Ouais, mais dans la balance des inconvénients, Paul, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour les Québécois?
Moi, je m'en serais pas mêlé, personnellement. Tu dis, je sais pas qui va gagner, je reste tranquille.
Mais d'autant plus que tu mentionnes la péréquation, puis c'est tout à fait vrai. Puis soulignons au passage que l'Alberta a reçu 8 milliards de dollars de subventions pour le pétrole pour une population de 4 millions de personnes. C'est le double de notre péréquation. Fait qu'il se calme un petit peu avec la péréquation. Mais surtout, Le gouvernement conservateur dit une chose et fait son contraire depuis le début de l'élection. On ne sait pas ce qu'il se dit, mais on va en parler tantôt. Là,
oui.
Mais ça se peut que ça soit une chose et son contraire. Et donc, pourquoi, moi, je pense que c'est le check pour le troisième lien qui motive une bonne partie des intentions de M. Legault.
Je t'assure qu'on
mais si rapide. C'est ça, si c'est ça, c'est Luc, la réponse, si c'est ça, Luc, là, tu, évidemment, tu te fais le...
Là, je vous arrête pour la pause, parce qu'à un moment donné, tirer dessus, là... non, j'ai pas le choix.
Je sais. Désolé.
Alors, pause et au retour, on va parler justement de la campagne électorale. Il reste une semaine avant le vote.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, c'est la dernière semaine de campagne électorale. Le vote par anticipation prend fin aujourd'hui. Question, est-ce que les chefs sont venus vous chercher? Avez-vous été interpellé par la campagne? Est-ce que vous suivez ça? Nathalie.
Ben, la réponse, c'est oui. La preuve, c'est que je suis allée voter par anticipation. 1h10 d'attente, en passant, avant de pouvoir voter. Ça, c'est un autre sujet, mais quand même. C'est une campagne pleine de rebondissements, j'ai envie de vous dire, tellement que le 29 août dernier, lorsque la campagne a commencé, là, il y a des projections qui donnaient la probabilité d'une majorité conservatrice à 73, un peu plus de 73%. Et le 12 septembre, à 89%, la probabilité était complètement inversée en faveur d'une victoire libérale. Alors, cette campagne, elle est excitante. Et les 7, tu l'as dit, là, Paul, il reste 7 jours. C'est 7 jours qui seront déterminants. Au moment où on se parle, on ne sait pas de quel bord ça va aller. Là, les libéraux ont rebondi à l'échelle nationale. Il y a 4 points d'écart qui séparent le Parti conservateur du Canada et le Parti libéral du Canada. Ça, c'est pratiquement dans la marge d'erreur. Alors, est-ce que ça va se terminer le 20 septembre? Puis en passant, on n'aura pas le résultat le 20 septembre en soirée. Là, ça va prendre quelques jours. Est-ce qu'on aura un gouvernement minoritaire conservateur ou libéral? Vraiment, écoute, c'est je trouve ça absolument... très, très, comment dire, oui, excitant. Puis on dit toujours, souvent les gens disent « Ah, la politique, c'est plate, c'est pas intéressant ». Non, c'est le contraire d'être plate, là. On a l'illustration, cette campagne est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais il y a plusieurs éléments qui la caractérisent, déclenchés dans un contexte pandémique, et la violence également qui s'exprime. Moi, on a eu par le passé des politiciens, on leur a lancé des tomates, mais pas de façon aussi organisée et exprimée avec une telle violence qu'on le voit actuellement. Alors, c'est une campagne qui se distingue par tous ces éléments. Puis j'ajouterais aussi, est-ce que l'élection d'un gouvernement minoritaire le 20 septembre prochain va ouvrir, en fait, va laisser place à une ère des gouvernements minoritaires au Canada? Il y a eu 13 gouvernements minoritaires depuis 1921 au Canada. Est-ce que, dans le fond, on ouvre la porte à ce qui sera, à ce qui deviendra une coutume sur la scène fédérale, la question posée?
Luc?
Ah, moi, Nathalie, j'apprends à te découvrir. Je trouve que t'as un enthousiasme, je dis, comme d'une jeune femme, comme...
Attention à ce que tu vas dire.
Inaltérable, même pour les choses les plus plates qu'il n'y a pas. Oui, c'est plein
mais
de rebondissements.
Mais tu ressembles à ça, toi aussi. Là,
oui, peut-être un peu, ouais, c'est vrai.
Oui.
Mais oui, plein de rebondissements, oui, mais comme une balle qui descend un escalier, par exemple. Parce que moi, je trouve pas ça si le fun que ça. Par contre, je veux t'avouer quelque chose. Moi, je veux dire pourquoi je trouve pas ça le fun en partant. C'est que la campagne, il n'y aurait jamais dû en avoir. Trudeau se présente en élection, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qui a annoncé dans la campagne qui n'était pas déjà annoncé avant la campagne. Fait que ouais, c'était quoi le besoin loin d'élection, mon grand. Si t'es pas capable de faire une affaire, un enjeu, une promesse qui était pas déjà en cours et déjà approuvée, c'est-à-dire qu'il y avait pas de problème par les partis d'opposition pour approuver ça, surtout avec l'alliance avec le NPD pour les dépenses sociales. Bon, peut-être que oui, c'est vrai, dans les prochaines années, il aurait pu se produire un moment où il aurait refusé le discours du trône puis serait allé en élection. Mais en tout cas, là, tout de suite, il n'y avait pas besoin d'y aller. Et ce qui se passe, c'est que Jack Metzing n'a rien à dire de plus. Puis Justin Trudeau, il n'y a rien à dire de plus. Puis Amani Paul, ben, on ne veut pas entendre de plus d'elle. Donc, il reste qui? Il reste O'Toole. Et c'est vrai que c'est toute une bibitte O'Toole. C'est très, très intéressant, je trouve, ce qui s'est passé. Le gars se fait lire en disant « je suis bleu foncé ». L'avortement, puis les armes automatiques. Hey, non seulement il avait dit qu'il lutterait contre la loi sur les armes semi-automatiques, les 1500 armes semi-automatiques rendues prohibées par Trudeau, il avait dit qu'il allait l'abroger, mais il voulait retourner sur toutes les lois qui nuisent à la possession d'une arme depuis 1970 et de façon de les réétudier et éventuellement de les annuler. Ça, c'est la façon dont il a été élu au Parti conservateur. Et là, maintenant, on a qui? On a un gars complètement transformé. Un gars qui parle de des soins de santé, qui parle de la difficulté pour des parents de voir un enfant mourir et donc de la possibilité d'avoir 8 semaines d'assurance-emploi, qui propose des transferts en santé, les crédits aux familles en remplacement des places en garderie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Deux noms. Boris Johnson puis Tim Houston. Tim Houston, ça a passé inaperçu fin août. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, c'est un conservateur. Aucune chance de gagner. Les libéraux sont majoritaires. Bang! Il gagne l'élection. Pourquoi il gagne? Parce qu'il s'est transformé en libéral. La plateforme conservatrice ne le laissait pas présager, mais il a promis plus de programmes sociaux que les libéraux. Et il a gagné. Boris Johnson, il a fait quoi? Il est parti des conservateurs, les conservateurs très, très, très stiffs de l'Angleterre, puis il s'adressait au col bleu, comme Trump l'avait fait aussi, mais Trump avec sa manière. Donc, il s'adresse au col bleu, il parle des programmes qu'il devrait mettre en place pour les cols bleus, bang, il gagne, malgré les positions erratiques qu'il avait eues dans plein de domaines, il finit par gagner. Ben, c'est ça la solution pour gagner pour les conservateurs dorénavant, c'est se transformer en libéraux. Puis, la solution en libéraux, c'est quoi? C'est de se transformer en nouveau démocrate. Tout le monde à gauche.
Tout le monde à gauche.
Tu laisses Maxime Bernier à droite, c'est tout.
Ah oui, mais il reste lui. Ah ben ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point parce que à cause de ça, Maxime Bernier est en train de remonter. Mais pas de beaucoup.
Excuse-moi, sur l'échiquier politique, je dirais pas qu'Aaron O'Toole est à gauche, là.
Ben, à gauche de son parti. À gauche de son parti.
Ah, mais en fait, lui, il tente de ménager la chèvre et le chou, là. Évidemment, il faut qu'il soit, tu comprends-tu, quand même assez mielleux avec les Albertains, puis c'est l'opération grande séduction avec les Québécois, là. Tu sais, le gars, il doit assurer des ponts entre les deux. Mais lorsqu'on dit que Maxime Bernier a évidemment augmenté dans les intentions de vote, ben ce vote-là, il n'ira pas aux conservateurs de Aaron O'Toole, on s'entend, là. Je t'écoutais ce matin avec Bernard Drinville, avec notre ami Bernard, Paul. Je sais pas si de passer de 4% l'échelle du pays à 9%, est-ce que ça va faire la différence tant que ça dans certains comtés? On n'en sait trop rien, mais ce qui est clair cependant, c'est que Maxime Bernier réussit à canaliser la colère de ses réfractaires de l'ordre sanitaire qui expriment sans aucune nuance leur colère face à Justin Trudeau. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec la présente campagne électorale, c'est que il y a... En fait, on ne sait pas de quelle façon ça va se terminer. Je ne sais pas si les sondeurs, celui ou celle qui... Si on dit on mise sur un gouvernement minoritaire, il y a peu de chances qu'on se trompe. Mais de quel côté ça va aller, ça, on n'en sait trop rien. Et l'autre chose également qui est intéressante, les électeurs vont-ils voter pour ou contre? Je sais qu'il y a des gens, puis je reviens à François Legault la semaine passée, il y a des gens qui sont allés voter en fin de semaine, fâchés. En fait, ils ont voté contre les conservateurs, fâchés de ce que François Legault a affirmé. D'autres vont aller voter pour les conservateurs ou pour Justin Trudeau. Ça va être intéressant de savoir est-ce que les gens vont voter davantage pour ou davantage contre. Et ça, évidemment, c'est ce qui va teinter le résultat le 20 septembre prochain.
Mais selon vos expériences politiques, est-ce que les gens votent contre quelqu'un davantage que pour quelqu'un? C'est-à-dire, puis là, je prends l'élection à Montréal. Est-ce que c'est un vote contre Valérie Plante, mettons, ou un vote pour Coderre, ou comment?
C'est un vote pour. C'est de plus en plus. C'est Harper Harper et Bush aux États-Unis qui ont lancé cette façon-là de dire, je vais aller chercher un vote, puis Trump le fait par la suite, un vote qui sortait pas, qui ne s'exprimait pas, mais qui est quand même pour moi. Parce que tu sais, quand le jour du vote, là, avec des taux de vote qui diminuent à chaque année, si tu réussis à aller chercher 5%, 10% de tes électeurs qui n'allaient pas voter, écoute, bingo, là, bingo. Puis si tu es capable de les faire se fâcher contre l'adversaire, tant mieux. Puis c'est peut-être la meilleure manière d'aller chercher ce vote-là. Mais ça reste un vote pour toi.
Nathalie, t'en penses quoi?
Ben, moi, je pense que, ben, moi, au contraire, je pense que s'il y a beaucoup de collègues qui s'expriment auprès de l'électorat, s'il y a de la peur également qui s'exprime, on va avoir tendance à voter contre. Ça, c'est mon point de vue. Comme par exemple, tu dis, Paul, à Montréal. Moi, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui vont voter contre Valérie Plante. Moi, je l'entends, là. Évidemment, Luc, tu risques d'avoir une opinion différente de la mienne.
Non. Je suis d'accord. Lorsqu'une personne suscite de la colère, à beaucoup, beaucoup de colère, il y a des gens qui vont voter contre. Mais il va se passer un contrepoids, par exemple. Les gens qui voulaient voter pour cette personne-là, la voyant en danger, vont aller voter pour. C'est ça qui s'est passé avec Trudeau, hein, à la dernière élection. Il a failli perdre, puis il a gagné parce que les gens ils ont dit qu'il faut se rallier contre les conservateurs, puis ils sont allés voter pour Trudeau.
C'est ce qu'il essaie de faire actuellement. Ouais. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.